Alors, une préparation au mariage, comment dire, dans la foi chrétienne, est une préparation qui est liée au baptême, au moins au baptême d'un des deux. Et donc, il nous faut savoir d'abord ce qu'est la religion qui nous mène au baptême, avant de savoir qu'est-ce qu'on va faire dans cette réalité naturelle qu'est le mariage. Et ainsi, on prend les choses dans l'ordre pour pouvoir bien saisir la gravité et la beauté de ce que vous allez faire. Parce que si vous êtes venu pour être préparé au mariage dans une église, vous savez que ce mariage est unique, sauf veuvage. Le lien matrimonial est indissoluble, sauf, comment dire, sauf par la mort physique, corporelle. Et pour obtenir la dissolution du lien, c'est impossible entre deux baptisés. Et il faut des conditions particulièrement dramatiques pour un baptisé et un non-baptisé. Ce qui fait que, par exemple, pour vous, si vous êtes baptisé l'année prochaine, au moment de votre baptême, votre mariage passera d'un lien sacré à un lien sacramentel. Mais même entre deux non-chrétiens, le mariage est lui-même indissoluble parce qu'il est sacré en lui-même. Du fait de la religion chrétienne et de l'incarnation du Fils de Dieu, de la parole éternelle de Dieu, ce mariage a une grâce particulière, a une aide particulière de Dieu. Mais deux non-baptisés qui se marient aussi d'une manière indissoluble en soi. Parce que, et nous le verrons, le mariage est une réalité extrêmement fine par rapport à l'union de deux corps et de deux âmes. Et c'est les conséquences même de cette union qui fait qu'il n'y a pas de retour. Donc, c'est le moment. Voilà, vous levez, parce qu'il y a... Donc, si vous êtes venu dans une paroisse catholique, c'est en sachant que votre mariage sera jusqu'à ce que la mort ne sépare. Donc, même si vous avez fait un catéchisme solide, vous serez obligé de m'entendre vous faire le catéchisme pour enfants et de le supporter. Et ceux qui ont fait un catéchisme un peu éloigné se rappelleront ce qu'ils ont pu entendre. Et ceux qui ont fait un catéchisme léger seront tout contents de tout entendre. Donc, je suis obligé en 2017 de vous faire comment dire, les fondations profondes du mariage. Et cela commence par l'existence de Dieu, rien que ça. Pourquoi? Mais parce que le fait même de se marier dans la religion implique un minimum de foi en l'existence de Dieu. Le problème des mariages avec la pression familiale ou la pression sociale est plutôt des années 50-70 encore, ou des années 30, mais quand le mariage en un engagement religieux et indissoluble commençait à perdre de sa force à cause de la multiplication des divorces. Mais de nos jours, on peut refuser que vous souhaitiez vous marier uniquement pour faire plaisir à vos parents. C'est hors de question. Et c'est même un mariage nul. Vous pouvez tout pouvez être venir aux préparations, aux séances, écouter poliment, mais vous dire, bon, de toute façon, moi, j'en pense pas moins, on m'a obligé à être là, mais non. À ce moment-là, il faut le dire franchement, il vaut mieux que vous ne mariez pas maintenant et que vous mariez plus tard, véritablement. Alors, si vous voulez, si j'avais eu plus d'énergie cette année, quand vous vous êtes inscrit, je vous aurais reçu individuellement pour cela. Mais je crois qu'on s'était aperçu, non ?
Non.
Non du tout. C'est la première fois qu'on se voit.
Oui.
Ça, on sait. Donc là, il y a deux couples que je connais. On a eu un échange. Et là, c'est la première fois qu'on se voit.
Oui, c'est vrai.
Mais bon, vous avez l'air de savoir ce que vous voulez. Mais, voyez-vous, je suis vicaire épiscopal au bureau des mariages de Paris et je suis canoniste. Donc je connais le mariage d'une manière un peu plus profonde que la plupart des prêtres. Et ce qui fait que vous allez subir une préparation sans doute plus détaillée qu'ailleurs. Mais en tant que justement vicaire épiscopal, c'est-à-dire que le cardinal de Paris m'a confié la charge d'examiner le travail de mes confrères, parfois très très rapidement, hein. Mais s'il y a une difficulté par rapport au mariage, à la préparation au mariage, c'est moi qui ferai la remarque à un prêtre, à un collaborateur du curé ou au curé lui-même, par le statut que j'ai, qui a été officialisé par le titre de chanoine à la cathédrale de Paris, c'est-à-dire que je fais partie des 20 prêtres qui ont une charge particulière dans le diocèse. Ce qui fait que vous n'allez pas y couper, vous n'allez pas tomber, et que justement, je conseille aux prêtres de refuser les préparations au mariage lorsqu'ils sentent que les personnes sont là sans volonté particulière, ou alors n'étant pas conscients du caractère religieux de leur démarche. Il vaut mieux à ce moment-là qu'ils ne se marient pas religieusement. Justement parce que lorsqu'on ne se marie pas religieusement, on ne se marie pas vraiment. Et le mariage civil n'étant pas un véritable engagement pour toujours. Étant donné que la structure même du mariage civil, depuis la séparation d'une union, une collaboration entre la religion chrétienne et les États, eh bien, ne représente pas véritablement ce qu'est le mariage naturel, et même sacramentel. Étant donné la possibilité du divorce, d'une manière facile dans le droit de l'État, eh bien, on présume que tout mariage civil n'est pas un vrai mariage. Et vous pouvez divorcer civilement et vous remarier avec une autre personne, il n'y aura toujours pas de dimension religieuse. Parce qu'on estime que votre liberté l'emporte sur votre don. Or, il doit y avoir un don libre, mais un don. Étant donné que le code civil, les lois civiles vous permettent de vous séparer, eh bien vous n'êtes toujours pas marié. Mais, voilà. Donc c'est clair. C'est... Alors, donc l'existence de Dieu, mais je vais vous le faire plus rapide, hein, quand même, hein, on ne va pas faire des années de catéchisme en 2 heures. Alors, tout d'abord, le mariage est lié à notre corps, et principalement à notre corps, parce que les êtres qui n'ont pas de corps ne se marient pas. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Eh bien, l'être qu'est Dieu est un esprit. Qu'est-ce qu'un esprit ? Un esprit, c'est un être qui n'a pas de corps et qui est intelligent, C'est-à-dire qu'il lit à l'intérieur, interligere, il comprend les choses, il comprend les causes des choses, et ensuite, lorsqu'il sait ce qu'il a devant lui, il choisit, et il veut choisir tel objet ou tel objet. Objet, ça veut dire jeté devant. Objectum, c'est ce qui est jeté sous nos yeux, devant nos yeux. Alors vous allez me dire, si Dieu n'a pas Dieu, hein, sans jeu de mots, il n'a pas, comment il peut-il voir ? Eh bien, il voit beaucoup mieux qu'avec des yeux. Parce que les yeux du corps humain ou des corps des animaux sont des mécaniques absolument extraordinaires, mais très très fragiles, et qui ne sont pas la quintessence de la connaissance et de la vue. Les purs esprits voient sans avoir des yeux. Et si vous voulez, c'est un peu comme celui qui ferait un appareil photo numérique. L'appareil photo numérique, lui, va finir par voir, voyez, pour saisir sur la carte mémoire. Mais celui qui fait l'appareil photo n'a pas, à la place de ses deux yeux, deux appareils photo numériques. Il a une intelligence qui est au-delà de la matière et qui permet d'agencer la matière au point que de morceaux de métaux et de morceaux de carbone, il fait un appareil numérique. Donc son intelligence est bien supérieure à l'appareil numérique qu'il fait, qu'il réalise. Eh bien Dieu, lui, sans avoir des appareils numériques pour voir, ou des yeux de chair pour voir, est supérieur, et c'est lui qui met au point les yeux de chair. Parce que lorsqu'on vous explique que nous venons du hasard et de milliards d'années, ça veut dire que l'œil, en tant que tel, en tant qu'organe, en tant qu'appareil photo, un appareil de transmission de vue, comme caméra optique, a été faite par personne. L'œil n'a pas a été fait par personne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Or, c'est un organe qui décrypte les longueurs d'onde des particules lumineuses qui se détachent d'une source lumineuse en incandescence et qui s'usent et qui se consument en envoyant plein de photons, de particules qui rebondissent sur les surfaces à des longueurs d'onde différentes, ce qui fait les couleurs. Et donc, notre nerf optique et notre œil décryptent les longueurs d'onde en trois dimensions et avec plusieurs milliards de nuances de couleurs. Et tout ça, ça a été fait par personne. Avec un verre, avec une rétine que l'on essaye d'imiter, n'est-ce pas ? On essaye de faire des yeux artificiels actuellement, mais pour transmettre le message optique au cerveau, il va falloir se lever de bonne heure pour décrypter, si vous voulez, le flux électrique, en effet, qui atteint le cerveau. Mais, si vous voulez, si vous vous dites que c'est par hasard et par le temps qu'on a des yeux, en plus, en face de trous, puisque tout se fait par hasard, on pourrait avoir des yeux qui se forment derrière la joue, par exemple. Ben, ça serait pas très pratique. Il faudra ouvrir la bouche pour voir. Mais ils sont en face de cavités et devant. Mais vous allez me dire que par la sélection naturelle, tous ceux qui avaient des yeux derrière la tête et les pieds dans une autre direction se sont tous pris des arbres et des trous. Ils sont tous morts. Mais il serait bon quand même que la nature aveugle et hasardeuse continue son évolution et qu'on voit de temps en temps un humanoïde qui se prend un arbre parce qu'il a les yeux derrière la tête. Oui. On ne voit pas pourquoi l'évolution s'est arrêtée, qu'il n'y aurait pas sur les bords, sur les rivages, des pauvres poissons à moitié branchis, à moitié poumons en train ne plus savoir comment respirer. Alors, tout cela pour vous dire qu'il y a un être intelligent et volontaire que tous les peuples ont pressenti, à cause du fait qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Vous voyez, si je vous dis que cette laisse électronique, vous voyez, regardez, là, je l'attache ici, et ensuite dans la rue, je suis mon téléphone, je lis les mails, je lis les messages, mais ce téléphone, vous voyez, n'a été fait par personne. Vous ne le croirez pas. C'est un ingénieur, c'est quelqu'un qui était ingénieux, qui a du génie, qui a fait ça. Eh bien, voyez-vous, si je vous sors ma chaussure, je vous dis que je l'ai cueillie sur un arbre, vous n'allez pas me croire non plus. Mais c'est vrai aussi d'un trombone. Vous tombez un trombone par terre, vous allez vous dire, tiens, c'est un... Comment dire, c'est une tempête de sable qui a chauffé du métal et ça s'est enroulé et ça fait un trombone. Ceci est un clou. Par rapport à un téléphone portable, c'est quand même beaucoup plus simple à réaliser. Oui. Seulement, si vous trouvez un clou comme ça par terre, est-ce que vous allez vous dire que qu'il a fallu 1 milliard d'années et le hasard pour que ce clou soit par terre? Non. Vous allez considérer que c'est un être humain, intelligent et volontaire, qui a fait fondre du métal et qui voulait fixer quelque chose. Qui voulait fixer quelque chose. Qui a réalisé une forme pour un but. Eh bien, voyez-vous, cette main, si, comme sur Europe 1 ou France Info, voire à l'école, on vous dit « c'est le hasard et le temps qui ont fait cette main », voyez. Alors il faut dire que ça aussi peut exister par hasard. Hein, le grand exemple, c'est le livre, dans ce qu'on appelle l'apologétique. Je suis en train de vous faire de l'apologétique. Je défends l'existence de Dieu contre ceux qui disent que Dieu n'existe pas. Eh bien, vous prenez un roman, vous prenez les lettres, vous jetez en l'air toutes les lettres du roman, et elle retombe par terre et le roman est écrit avec les phrases, les points et tout. Eh bien, vous réussirez à le faire plus qu'une cellule. C'est-à-dire que le hasard est quasiment, est totalement, exclu d'une cellule vivante. Le hasard est totalement exclu d'un atome. C'est une structure extraordinairement intelligente. Un atome de carbone, un atome d'oxygène, un atome d'hydrogène, c'est extraordinaire. Non seulement la structure, mais le magnétisme qu'il y a dans les atomes. Et l'énergie, et l'électricité, et la circulation des électrons qu'il y a dans un atome, c'est absolument extraordinaire. Et ça ne peut pas venir du hasard. Bien voyez-vous, il existe un être qui n'a aucune matière en lui et qui a toujours existé. Cet être a toujours existé. Il est la source de tout être, de tout autre être. Parce que s'il y avait plusieurs éternels, c'est-à-dire plusieurs êtres ayant toujours existé, il y aurait une concurrence de perfection entre ces êtres. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y en a pas plusieurs. La perfection, c'est d'être un et d'être la source de plusieurs. Mais l'unicité de Dieu est une qualité de cet être parfait. Et alors, c'est un être qui, en lui-même, a une vraie vie. Il se pense et il se veut. Et Dieu en lui-même pourrait ne pas créer, tellement il est heureux. Parce que, si vous voulez, tout ce que nous voyons autour de nous, des étoiles, des planètes, des géantes gazeuses, des comment dire, la poussière qui constitue les montagnes, tous ces milliards de d'atomes qui, comment dire, qui se sont refroidis à partir d'une création de masse atomique absolument incroyable, de fer, d'or, de manganèse. Enfin, il faut voir ce que c'est que le noyau d'une étoile. Et c'est de la matière brute absolument incroyable en incandescence. Ensuite, vous avez du gaz, de l'explosion, qui fait une boule d'explosion. À un moment donné, ces étoiles se explosent et envoient des morceaux de matière absolument incroyables qui se refroidissent et qui forment des planètes. Mais il faut avoir l'idée quand même. C'est drôle d'ailleurs de créer de la matière comme ça. Eh bien, ça c'est ce que nous voyons. Quand on voit les papillons, j'évite l'exemple des mouches. Enfin, quand même, une mouche, hein, les yeux d'une mouche, c'est absolument invraisemblable. Je ne sais pas combien de centaines de facettes il y a dans les yeux d'une mouche. Parce que Dieu est un grand plaisantin. Et lorsqu'il vous fait des insectes avec des pattes, avec des têtes absolument invraisemblables, des poissons avec des formes les plus curieuses qui soient. Eh bien, ça vient de qui? Eh bien, ça vient que de lui. Que de lui. Toute cette imagination, toute cette variété de fleurs, d'animaux, d'insectes, d'instincts, de délirants, n'est-ce pas? Eh bien, ça vient uniquement d'un seul être, qui est Dieu. Or, Dieu, voyez-vous, dans son extraordinaire imagination et dans sa extraordinaire vitalité, en lui-même, il la connaît. Et en puissance, c'est tellement beau qu'il aurait pu s'en contenter et ne pas créer. En Dieu, il y a cette pensée éternelle, il se connaît. Et nous, qui avons la nature, une nature spirituelle qui a été créée par Dieu, on a un mode d'agir semblable à Dieu. Et nous pensons, nous réfléchissons. Le mot réfléchir, c'est se fléchir sur soi-même. On se regarde. Là, pas seulement le nombril, mais la tête, nos pensées. Aucun animal ne réfléchit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Tous les animaux, sont dans le moment et l'instinct. C'est la mémoire des animaux qui peut nous faire penser à de la réflexion. C'est l'instinct de l'animal qui peut nous faire penser à de l'intelligence. Mais il n'est pas conscient de lui-même. Un chien ne pourra jamais penser « je suis un chien ». Nous réfléchissons. Et lorsqu'on a pensé, on exprime notre pensée. On parle. Et cette parole a un sujet, un verbe et un objet. Je suis heureux. Bon, je suis, verbe d'état, heureux. Je suis malade. Je, moi, ma nature humaine, je suis, quoi, ça va pas. J'ai de la fièvre, normalement je suis à 37 degrés, là je suis à 40, ça va plus. Et, ou, je cours. C'est-à-dire, je et mes jambes, se mettent l'une devant l'autre. Je mange. Je prends des aliments et je les mets dans ma bouche. Je bois. Eh bien, si vous voulez, le chien qui lappe, il boit. Mais il ne pourra jamais dire « je bois ». Parce que nous pouvons le dire « je bois ». Et c'est déjà une réflexion sur nous-mêmes. La boulangère est gentille. Elle me sourit. Elle fait du bon pain. Tout cela, ce sont des jugements. Mon père et ma mère se sont occupés de moi. J'ai eu l'épreuve de ne pas connaître mon père. J'ai des enfants, mes enfants même. Un enfant est parti. Vous voyez? Et tout cela, nous le jugeons et nous l'estimons et nous nous exprimons. Eh bien, figurez-vous que Dieu, lui, se dit toujours, en une seule pensée éternelle. Et toute sa puissance de création, il l'a saisie en une seule pensée. Il n'y a pas de réflexion en Dieu, il n'y a qu'une expression en Dieu. Vous allez me dire, mais pourtant, le temps passe. Oui, mais pour Dieu, le temps ne passe pas parce qu'il est tout puissant. Il a tout devant lui. Même ce qu'il fait dans le futur pour nous, il le fait dans un éternel présent pour lui. Et de toute éternité, il dit son être. Et l'expression même de la parole humaine est centralisée dans le verbe, grammaticalement. Et c'est la raison pour laquelle on parle de la parole de Dieu comme le verbe de Dieu. Avoir le verbe haut, c'est parler fort et avec prétention. Eh bien, on appelle le verbe la parole de Dieu. Mais la particularité qu'il y a en Dieu, c'est que Dieu n'est pas seulement un être tout-puissant et intelligent. Il a une bienveillance extraordinaire. Il est bon. Et tout ce qu'il fait est pour le meilleur. Il aime ce qu'il fait. Il aime ce qu'il crée. Et son amour en lui-même est tellement est sans limite. Ce qui fait que lorsqu'il parle et lorsqu'il s'exprime, et il y a un apôtre, saint Paul, qui dit que la pensée éternelle de Dieu est le miroir de son être. La seule réflexion qu'il y a en Dieu, c'est de se dire une fois. Eh bien, lorsqu'il se dit, il est, pas de manière narcissique, mais de manière véritable, il s'aime. Dieu aime sa beauté et sa bonté, parce que elle mérite d'être aimée. Elle est extraordinaire, elle est sans limite. Son amour est sans limite, sa bonté est sans limite. Donc quand Dieu se comprend, il ne peut pas s'empêcher de s'aimer lui-même. Et son amour n'est pas un amour narcissique, puisque c'est un amour qui se diffuse. Et comment il s'est diffusé? Par la création. Dieu est source de création et de vie parce qu'il est lui-même d'une totale bonté. Au point que le Dieu se dit Père, et sa parole, il l'appelle son Fils. Et il y a une relation, d'expression d'amour éternel qu'on appelle le Saint-Esprit en Dieu. En fait, en quelque sorte, tout esprit est voué à l'amour. Tout esprit est voué à se donner et à donner. Donc vous comprenez pourquoi il y a certains mystiques, hein, des hommes, des femmes, qui, quand ils s'approchent et qu'ils discernent dans la vie humaine et dans la vie terrestre des cristaux d'amour pur, ils se disent « ça c'est vraiment Dieu ». Et tout ce qu'il y a de mauvais, tout ce qu'il y a de défectueux, ils prennent du recul par rapport à tout ce qui est limité. Vous voyez, quand Dieu fait une fleur, il dit pourquoi il ne la fait pas immortelle? Pourquoi elle fane? Ben, quand elle fane, il y a une graine à la place. Je sais pas si vous savez. Toute fleur, c'est une graine. Quand une plante pousse une fleur, c'est quand la fleur fane, à la place, il y a une graine. Donc c'est une beauté éphémère pour la vie. Donc Dieu n'est pas, si vous voulez, vous pouvez reprocher que la fleur, que la rose se fane. Vous pouvez reprocher qu'un corps humain soit malade, au point de mourir. Mais si vous voulez, ce sont des. Pour Dieu, le but ultime est bien plus beau que la beauté du corps et la jeunesse du corps humain. Le but ultime, c'est la récompense de la nature humaine dans la vie éternelle et même la résurrection du corps. Donc, quand Dieu a créé la nature humaine, il savait qu'elle pouvait se révolter, ne pas être fidèle à sa cause, à la cause même de son être qui est d'aimer, mais même avec cette chute, Dieu lui donne une autre chance encore pour atteindre son but, qui est le repentir et la récompense après la vie terrestre. Et donc Dieu ne s'est pas laissé vaincre par l'abus que nous avons fait de notre être, et de notre intelligence et de notre volonté. Nous étions faits pour aimer, et parfois nous n'aimons pas. Et on se préfère. Et quand on se préfère, parfois c'est sur notre propre avis ou des choses complètement idiotes pour savoir qui a perdu les clés, eh bien, on s'attaque, alors qu'on ne devrait pas s'attaquer. C'est un péché que de monter la voix et de crier pour savoir où on a mis les clés. C'est un péché, un petit péché, hein. Il y a pire, hein. Quand vous tuez votre voisin parce qu'il fait du bruit toutes les nuits, c'est vraiment une intolérance très. Il y a une question de justice parce qu'il est très pénible, vous lui avez dit plusieurs fois, il est très injuste, il pèche contre vous, il ne respecte pas votre sommeil, mais c'est disproportionné de l'étrangler. Ça, c'est un péché. Alors pour revenir à des choses, pour repartir en l'air, Dieu est Trinité. Dieu est trois relations, Père, Fils et Amour. C'est le propre des esprits d'avoir cette relation en elle. Sauf que Dieu, lui, c'est une relation éternelle. Donc c'est en lui, c'est son être profond, d'être Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, qui a-t-il créé en premier? Eh bien, il a créé d'abord les anges, les esprits. Et vous avez des êtres humains qui s'amusent à essayer de rentrer en relation avec les esprits. Sauf que comme Dieu nous dit que les bons esprits ne veulent non pas rentrer en relation avec nous, mais doivent nous aider à faire le bien et à aimer, et il nous prévient que toute relation avec un esprit sera très probablement avec un démon. Donc il nous dit de ne pas le faire. Qu'est-ce qu'un démon? C'est un esprit qui a choisi la haine. Alors, à quel moment Dieu a créé les esprits? Les purs esprits.